ça tue pas les arbres, on les coupe comme ça
CO2, mon ami.
Vous élaguez les arbres plusieurs fois dans l'année
ou... D'après vous.
Bah ouais, non. Non. Mais je sais pas, moi, j'y connais rien.
Le raisin, ça pousse en hiver.
Non mais bon, c'est bon, ça va, là. Ça fait une heure que vous foutez de ma gueule, là. C'est bon, je suis parisien, moi, j'y connais rien à la campagne, aux plantes et tout le merdier, là.
Denis Chessou.
Mais je suis comme vous, moi, j'ai un boulot de merde qu'on me demande de faire, tu me fais chier.
Sur France Inter.
Et j'en ai rien à foutre de vous poser des questions. Si vous voulez pas me répondre, ou si vous trouvez mes questions cons, bah vous me répondez pas, et moi je me casse.
Ça va, vous êtes pas un peu surmené, vous?
Alors je vous rassure, ça va être beaucoup plus calme. On va parler des arbres, mais de façon tout à fait zen dans cette émission qui prend le temps de ne pas aller vite. Vous le savez, donc tout au long de l'année, et peut-être encore plus en cette fin d'année. Et puis la nature qui chuchote à vos oreilles, c'est le dimanche, c'est sur France Inter. Et nous travaillons aujourd'hui avec Arnaud Caillé à la technique. On a préparé l'émission avec Thomas Lehété. Et c'est Jérôme Boulet qui réalise l'émission en compagnie de Étienne Bertin. Alors voilà, vous l'avez compris, donc Hubert Félix Thiéphen sera avec nous, ou plutôt je serai avec lui dans la forêt de Chaux parce qu'il habite juste à côté, mais auparavant, bah aujourd'hui je vais mettre ma plume trempée dans une petite humeur au repos pour écouter les mots de Jean-Marie Pelt. Alors oui, c'est un petit rituel, avec cet homme botaniste, agrégé de pharmacie, qui était visionnaire, qui était raconteur du vivant, et qui est mort le 23 décembre, il y a 4 ans, et je peux vous assurer que la joie donc l'a habité jusqu'au bout. Et donc j'ai retrouvé ce moment d'amitié tourné dans son jardin, c'était il y a 7 ans. Ciel d'hiver en Lorraine, nous étions mi-décembre chez lui à Altrof, juste au moment de la renaissance de la lumière.
Beaucoup plus fort hier soir. Ah, je vous rejoins Jean-Marie pendant que vous regardez la lune. Aujourd'hui on va pas se dire bonjour, on va se dire bonsoir. Hein?
Mais oui, c'est la nuit.
C'est la nuit, c'est une très très belle nuit d'hiver. Et alors on est chez vous en Lorraine. Et là au sommet d'un petit col, d'un petit plateau, on est à une vingtaine de kilomètres de Metz, on va dire, pas très loin de Thionville. Il y a ce ciel que vous regardez depuis que vous êtes tout petit.
Oui, je grimpais dans les arbres quand j'étais petit pour le voir de plus près. Ce qui terrifiait mes parents. Alors j'ai fait une transaction avec eux et j'ai dit que je ne grimperai plus dans les arbres quand il y aura la lune.
Oui,
c'était tout à fait moi, ça.
C'est bien. Et bon, ça limitait un peu les risques, malgré tout. Voilà.
Alors, on voit parce que c'est le ciel d'hiver. Ça, c'est les avions qui atterrissent à Luxembourg. Oui. On voit parce que c'est le ciel d'hiver ce grand quadrilatère dans le ciel que vous voyez là, allez, qui est Orion. Ça, c'est très caractéristique de notre hiver dans l'hémisphère nord. Avec ces 3 étoiles alignées au milieu du quadrilatère. Et puis, plus au sud encore, puisqu'on le voit au sud, hein, plus on va au sud, on voit une très grosse étoile, qui est Sirius, qui est en fait la plus grosse étoile qu'on peut voir briller dans notre ciel, surtout en hiver. À l'inverse de ce ciel d'hiver, on a le ciel d'été, on a le grand triangle de l'été, avec 3 grosses étoiles, Vega dans la constellation de la Lyre, et Deneb, qui est 1000 fois plus gros que le Soleil, c'est extraordinaire, une énorme étoile dans la constellation du Cygne, et Altaïr dans la constellation de l'Aigle. Ça, c'est le ciel d'été.
Jean-Marie, dans votre conception de la Terre et je dirais de l'écologie, je veux dire qu'on n'est évidemment pas coupé du cosmos et donc de ses étoiles non plus.
Non, on est proche du cosmos. Moi, je sens toujours, quand je regarde un beau ciel étoilé comme ce soir, il est magnifique le ciel ce soir, il est très très beau, je ressens toujours comme une présence, je ressens ce cosmos comme habité par une présence mystérieuse et proche, alors que nous sommes devant l'infiniment lointain. Et je me souviens de ce beau texte de la Bible dans le livre de Job, où Job est sur son fumier. Et puis tous ses copains lui disent, tu as dû faire des choses très 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 mauvaises pour que Dieu te punisse d'une telle façon. Et alors après qu'il s'est fait reprocher tout et le contraire de tout, il y a Dieu qui parle. Et alors il parle en majesté. Et il dit à Job, mais où étais-tu donc ? quand j'ai fait les constellations, quand j'ai installé le baudrier d'Orion, quand j'ai installé la grande ours dans le ciel avec ses petits-enfants, parce qu'ils pensaient à la petite ours à l'époque, déjà qu'ils connaissaient bien, car à cette époque, on connaissait déjà très très bien les constellations. Et ce texte est très beau, parce que ça nous donne une profondeur et une dimension que nous ne pouvons voir que dans le silence de la nuit. Vous remarquerez qu'il y a un grand silence ce soir.
Alors chez nous, les petits ours et les grands ours, elles sont tranquilles dans le ciel, hein, c'est là.
Oui.
Ça se porte le mieux. Hein.
Et alors, la grande ours nous permet de repérer l'étoile polaire.
Voilà.
Quand on prend 5 fois la distance des 2 dernières étoiles de la casserole, on tombe pile sur l'étoile polaire. Ouais. Et l'étoile polaire, elle est toujours pareille dans le ciel au même endroit. En fait, l'axe qui nous lie à elle, c'est l'axe autour duquel tourne le ciel. Et en fait, c'est pas le ciel qui tourne, c'est la Terre qui tourne autour de cet axe. Et la polaire, on la voit bien ce soir aussi dans le nord, là. Elle est là, pile au nord. Et alors tout au fond, on voit la tour de télévision.
Ce sont des étoiles qui clignotent.
Ce sont des étoiles qui clignotent. Alors j'ai négocié un clignotement doux, parce qu'il y avait un clignotement beaucoup plus brutal autrefois.
Ah, oui.
J'ai été les voir et j'ai dit, moi je ne peux pas supporter ces éclairs effroyablement lumineux dans notre ciel, qui doit rester calme. Et ils ont été très gentils, ils ont diminué l'intensité du clignotement nocturne. C'est une grande victoire de l'écologie pour la région.
Jean-Marie, lorsqu'on regarde cet hiver, il est symbolisé par quels arbres, pour vous, quels végétaux ?
Il y a les conifères, parce qu'ils gardent leurs feuilles, leurs aiguilles, sauf les mélèzes, et puis qui donnaient les arbres de Noël, naturellement, par le gui, qui reste vert sur les arbres des feuillets et des charnés, par le houx, parce qu'il reste vert toute l'année dans nos forêts, et par l'if aussi. Autrefois, l'if, c'était l'arbre du 23 décembre, parce qu'on croyait que le 23 décembre, c'était le jour qui faisait le lien entre l'ancienne année et la nouvelle année. Et c'était un jour, en quelque sorte, blanc. C'était un jour blanc. Et ce jour était dédicacé à l'if, parce que l'if vit très 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 vieux, parce qu'il ne perd pas ses aiguilles en hiver, et parce qu'il était un petit peu l'arbre symbolique de la mort, mais aussi de la résurrection. Et c'était la célébration de la mort du soleil, puisque c'était le jour le plus court, et de la résurrection du soleil, puisqu'à partir de là, les jours commencent à s'allonger.
Et donc toujours le plaisir de retrouver la voix de Jean-Marie et de la Moselle au Jura. Eh bien écoutez, c'est pas très très loin, et on va donc prendre la route vers la forêt de Chaux.
Je croise des soleils aux ardeurs érotiques, avec des cris perdus sur des sourires de femmes, bercés par les étoiles d'une essence romantique. J'ai trop longtemps cherché mes visions dans les flammes. Je veux brûler pour toi, petit. Je veux brûler pour toi la vitesse de la lune autour de nos orbites. N'arrête pas les sanglots froids de l'humanité et l'œil désespéré dans son triangle en quitte semble soudain jaloux de nos fiévreux baisers. Je veux brûler pour toi, petite. Je veux brûler pour toi. Je veux brûler pour toi, petite. Mais gâche pas mon enfer avec ton paradis. Je veux brûler pour toi, petite. Ne lâche pas tes prières sur mes cris hypocrites. D'aucuns me disent rebelle et d'autres inéfugés. Mais mes divagations n'emmerdent plus personne. je caresse mon corbeau en chantant du rufflé et joue pour les voyous virés de la Sorbonne. Je veux brûler pour toi, petite. Je veux brûler pour toi.
Il y a de l'ardeur, il y a du feu, il y a même un corbeau. Bon, il n'y a pas de doute, hein, c'est bien du Thieffen, c'était Stratégie de l'inespoir. Ah, on le retrouve chez lui. Il manque que les vaches, mais c'est une ancienne ferme, là, vous êtes.
Oui, qui faisait le double, mais qui a brûlé. Enfin, il y a très longtemps, c'est peut-être même au siècle dernier.
Ah oui.
Elle est 1810, cette maison.
Ouais.
Les murs, là, ils font 1,20 m, à peu près.
Bonne isolation.
Ça va faire, pour les anciens.
Bonjour le chat. Bonjour, c'est à vous.
C'est un chat sauvage qui vient ici quand je suis là.
Donc c'est, il vous a choisi en fait.
Oui, il vient et puis bon, il est en bonne santé, il fait plusieurs maisons comme ça, il zone. Et...
C'est dit un type qui écrit Sébastochat, c'est pour moi, non?
sans doute. Mais il y en a toute une colonie, là. Il y en a des fois, ça dépend des périodes, comme c'est des chats sauvages, hein. Qui sont nés dans des granges.
Ah, oui.
Là, il s'est fait un copain, là, il amène un copain à manger là, en ce moment. Ouais.
Ça doit vous plaire, ça, des chats sauvages qui viennent chez vous?
Je peux pas avoir d'animaux, je bouge trop.
Les chats, c'est parfait.
Le fait que c'est eux qui m'ont adopté, en fait.
Alors, Hubert Félix Thieffen, on le sait, donc, est jurassien, donc il est originaire de Dole. Il a choisi sa maison, il y a plus de 30 ans, en fonction du silence. Nous sommes en lisière de la forêt de Chaux. Donc, je vous le disais, donc, on n'est pas loin de Dole, on est dans le Jura. Donc, très beau département avec la forêt dans la plaine, vous avez les vignobles, le premier plateau. Et puis après, on grimpe vers les épicéas, la neige, le froid sec, le pays des lynx, les cascades, bref. Un chapitre de la beauté du monde. Et là, bah, c'était par une belle fin de journée, on va dire, de printemps. Vous aviez des pousses vert tendres, hein, plein les arbres. Et c'était un Thieffen, bon, qui n'était pas plus tourmenté que ça, hein, donc assez tranquille, disponible. Balade en forêt, donc au pays des hêtres et des chênes. Et on n'était pas parti dans le but de rencontrer la vouivre, vous savez, cette femme serpent qui est chère à Marcel Hébé, autre local de l'étape. Non, on voulait donc cueillir quelque chose de rare dans ce monde de folie qui se réalise dans l'agitation, le non-sens et le bruit, et ben justement, le silence. Et derrière le silence, et ben, le rêve n'est jamais loin, et la musique non plus.
Alors la sommière, en fait, c'est ça. C'est là où on se paume souvent. C'est que c'est souvent pas le chemin le plus utilisé. C'est pas forcément celui-là. Il y a des tronçons de sommière qui sont abandonnés pratiquement parce que c'est marécageuse. Ils appellent ça les bourbasses. Là.
Ouais.
Alors on fait des détours et des fois on fait carrément un demi-tour sans s'en apercevoir.
Alors avec cette sommière, on traverse en fait pratiquement toute la forêt de Chaux.
Alors toute la forêt a été organisée, mais déjà sous la monarchie, hein, avant Napoléon. Ça a été continué par Napoléon. Mais je conseille pas de prendre ce. Parce que là, on va dans les marais. Là. C'est une forêt qui a failli disparaître au 16-17e siècle, par là. Parce que les gens faisaient paître leurs bêtes dans la forêt. Et eux-mêmes se fournissaient en bois. Mais surtout les bestioles, quoi, qui bouffent les petits. Tout ce qui sera les futurs chênes et les futurs.
Alors là, on rencontre des forestiers, des joggeurs. Puis on a quelques chevreuses, peut-être, qui sont en train de nous épier. Nous, on les voit pas.
C'est vrai, j'en ai encore vu un hier soir. Ouais. J'apprécie beaucoup quand je suis comme ça en tournée, notamment quand j'arrive de Paris. Il y a longtemps que j'ai pas vu un peu de nature. Quand j'arrive, boum, je tombe nez à nez avec un chevreuil. Tout de suite, ça y est, je suis dans le paysage, quoi.
Alors ici, quelle serait la musique de Beethoven ou de Mahler qui irait bien?
Quand je viens par ici, je sais pas ce que je cherche. Je cherche plutôt le silence. Je pense que les oiseaux me vont tout à fait.
Je disais ça parce que c'était pour nous aider un petit peu pour l'habillage Schoeners, comme je sais que vous adorez Mahler et Beethoven.
Ce serait plutôt Mahler, là, parce qu'il ne faut pas oublier que quand Mahler composait dans le Tyrol, notamment, où il avait un chalet, il était gêné par les clarines des vaches. Donc on peut imaginer qu'ici, il serait peut-être la nuit gêné par le chant du hibou. Et aujourd'hui, j'ai entendu pour la première fois le coucou, donc il serait peut-être gêné, ou alors il mettrait des notes qui ressemblent, je ne sais pas.
Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que vous qui êtes un homme plein de mots, quoi, sachez que vous avez une admiration pour des gens comme Céline, comme Lautréamont, qui foisonnaient de mots. Ici, c'est plein de silence. Et vous l'avez très bien dit, ce que vous aimez ici avant tout, c'est ce silence comme la solitude qui peut être habitée. C'est ça que vous venez rechercher là.
Le décor importe peu, je ne suis pas très exigeant. C'est silence, solitude, espace et temps. C'est-à-dire, je peux rester des fois une semaine sans parler à personne ici et ça me permet de garder tous mes mots au frais. Moi, il faut que les mots soient chargés d'images et de musicalité. Donc, parfois, il me faut un peu de temps. Donc, j'ai besoin de m'exiler, d'aller ailleurs et d'avoir ce silence pour me concentrer et puis le temps pour pouvoir jouer avec mes mots. Enfin, je viens écrire ici quand j'ai du matériel, mais je peux pas. J'ai pas très inspiré par la nature elle-même.
Oui.
Ça m'inspire pas vraiment. J'ai essayé parce que souvent les journalistes me disaient comment c'est-il que vous qui aimez tant la nature, je sais pas où vous avez trouvé ça d'ailleurs, vous n'écrivez que des choses urbaines. Alors un jour j'ai essayé d'écrire, c'était au mois de mai 2000, j'étais sur ma terrasse et il y a une cacophonie d'oiseaux qui chantaient et tout, et je me dis tiens, je vais leur faire une chanson là-dessus.
Ouais.
J'ai mis 3 mois à la faire, et il a fallu que je fasse un truc un peu surréaliste pour que ça commence à fonctionner. Quoi. Donc j'ai arrêté les frais là.
Cela dit, La fille du coupeur de joint, c'est presque une chanson ode à la nature.
C'est très particulier, parce que ça, je l'avais écrite en fac pour faire rigoler les copains, mais c'était aussi les débuts de ce qu'ils appelaient les folkeux, quoi. Ouais. Et même à Paris, il y avait les mecs en sabots, ils se faisaient toute la campagne française pour aller voler des chansons, en fait, parce que le premier qui arrangeait une chanson traditionnelle, c'est lui qui touchait les droits d'auteur. Il y a eu pas mal de truands comme ça dans les années 70, et beaucoup de Parisiens, notamment. Et il y avait aussi tout ce régionalisme qui fonctionnait, vive la Bretagne libre, vive le Languedoc-Roussillon libre, vive l'Alsace libre. Et donc avec des copains, on avait monté le Jura libre, on voulait le rattachement au Jura suisse pour partager le chocolat, enfin les conneries qu'on avait. Et le lendemain, j'ai continué, j'ai voulu élargir le panel, j'ai mélangé plusieurs chansons traditionnelles, c'est devenu La fille du coupeur de joie, enfin j'ai ajouté ma petite couleur personnelle.
Non, parce que celle-là, tout le monde vous la demande, quoi. Enfin, ça fait partie quand même des...
Alors, j'attends même plus qu'on la demande, hein. Je la joue, parce que de toute façon, sinon il y a une...
Vous feriez lyncher, donc c'est pas la peine.
Elle descendait de la montagne sur un chariot chargé de paille, sur un chariot chargé de foin, la fille du coupeur de joie, la fille du coupeur de joie.
Alors, lorsque l'on parle sinon de... d'écologie, parce que vous n'êtes pas insensible à ce mot-là.
Moi, j'ai fait partie du premier mouvement écologique français, 15 jours et demi.
Donc, années 70, c'est ça?
Oui, je suis parti en courant parce que...
Parce 15 jours et demi, c'était pas mal déjà.
Oui, parce que c'était stupide, quoi. Enfin, c'était des cons, quoi. Ouais. Tout militant est un peu con, mais là, c'était un peu trop, quoi. Les mecs, quand on nous invitait, ils venaient avec leurs carottes bio à la main. C'était très courtois pour ceux qui invitaient, quoi. En leur disant, vous bouffez de la merde, vous regardez, on mange des carottes bio.
Oui.
À force de manger des carottes bio, on commençait à prendre des formes de carottes. Mais bon,
bien sûr, ça ressemblait à des lapins.
Je suis resté 15 jours et demi, donc je me méfie dès que j'entends le mot écologie, ça m'intéresse. Mais dès que j'entends le mot écologiste, je m'en vais en courant, quoi. C'est clair. Quoi. C'est un peu comme la religion catholique, ça, et les religions en général, ça me fait fuir. Hein. Oui.
Qu'est-ce que c'est beau, là, ces rayons de soleil là, qui nous tombent dessus. Ah, si, on a quand même un peu de résineux, là.
Oh là, c'est assez rare. Il y a une époque, ils ont commencé à mettre du résineux, puis je pense que des écolos ont dû gueuler un peu quand même en les disant, mais après, vous savez, de foutu, on va plus pouvoir rien mettre.
Bah, c'est des sols pauvres, après.
Et les résineux, c'est bon pour le haut, donc c'est passé vite. Hein.
Cela dit, vous devez quand même ramasser de la neige aussi de temps en temps. Oui.
Là, ça tombe vite quand on approche d'ici. Hein. Sur les 50 km, là, on perd 3 degrés, hein, par exemple.
Ouais, c'est ça.
Donc, il fait quand même plus froid que dans les plaines de la Saône. Hein.
Et là, il y a quand même...
là, on a une source, qui est plus haute. Hein.
On se rapprochait, oui, ça y est, là, on a un beau petit rue, là. Oh, bah, elle fait déjà un bon 1,50 m.
Elle a une fleur abondante. Hein.
Oui. Et qui va aller nourrir le Doubs.
Ça va dans une petite rivière qui s'appelle la Doulonne et qui jette dans le Doubs. Ouais. Pas très loin.
On voit évidemment très bien le travail de l'homme, parce que cette forêt... Alors, faut peut-être l'imaginer, donc à l'époque de Louis XIV, ça devait absolument pas arrêter. D'abord parce qu'on sortait des troncs pour la marine, et puis il y avait des industries, des fabriques tout autour. Donc on utilisait beaucoup le bois.
Même avant, c'est industriel depuis l'Antiquité ici. Hein. Tous les villages, il y a une vingtaine de villages autour de la forêt, et la vingtaine de villages ont tout un cachet historique, quoi. Bon, il y a plein de voies romaines qui traversent cette forêt. On sait que César lui-même passait ses quartiers d'hiver à Besançon. Donc on peut imaginer, par exemple, que les glaives des soldats romains ont pu être fabriqués dans le coin, quoi, parce qu'il y avait, du côté du Doubs, il y avait beaucoup de sidérurgie. Mm-hmm. Il y a même une partie de la tour Eiffel qui a été construite dans le village à côté. Et dans la forêt, il y avait une verrerie, et puis il y avait beaucoup de briqueterie, de poterie. Enfin, tout ce qui demandait de l'eau, de l'argile, du fer, de la chaleur, enfin, il y avait tout, quoi.
Et vous sentez quand même un peu franc-comtois. Enfin, moi, c'est marrant parce qu'en vous écoutant, t'entends, je me disais, tiens, je retrouve un peu des accents à la Clavel. Bernard Clavel qui est enterré pas très très loin, là, à Frontenay.
Oui, non, mais je vais pas jouer comment les traîtres et les mecs qui crachent dans la soupe. Seulement, moi, j'ai raconté à une certaine époque, je parlais de citoyen cosmique, et ça m'intéresse davantage. Mais je suis fier d'être jurassien, quelque part, très fier. Mais ça me suffit pas, en soi. C'est pas... régionalisme, c'est un peu petit, quoi. Même l'Europe, c'est petit pour moi. Donc, c'est surtout mal organisé, mais ça, c'est un autre sujet. Mais... je le vois beaucoup plus large, quoi. C'est-à-dire... depuis tout jeune, j'ai toujours été intéressé par les civilisations des autres, aussi. J'étais très mal reçu dans le Jura, hein, au départ. Quand ça commençait à marcher fort dans les années 80, ouais. Je me faisais siffler ici, hein, je me faisais jeter. J'ai arrêté de tourner pendant 10 ans ici, dans toute la Franche-Comté. Hein.
Qu'est-ce qu'ils vous reprochaient ?
Non, je sais pas. Sans doute que j'ai mis ça sous le compte que nul n'est prophète en son pays. Oui, je suis reparti ailleurs. Quoi. Mais, puis ça m'a, c'est peut-être aussi ce qui m'a intéressé de m'installer ici. Je me suis dit, au moins ici, ils vont pas m'emmerder puisqu'ils m'aiment pas. Donc...
Un autre pont, on y va. C'est pas un vrai pont avant, mais ça monte de forme et d'équilibre.
Non oui, ça, c'est bon. Il y a quelques années, j'aurais pas fait. Hein.
Oui, enfin, vous auriez allé à la flotte. Quoi. Vous auriez bu de l'eau du ruisseau. Alors, je vous présente un bon copain qui s'appelle Alain Goy et qui est un forestier. De la forêt de Chaux, donc un jeune ancien de l'ONF, hein, faut dire, et qui adore cette forêt. Alors, cher Alain, pour la présenter, pour les gens qui ne la connaissent pas, qu'est-ce que l'on peut dire de cette forêt de Chaux ?
S'il fallait caractériser la forêt de Chaux, alors ça, c'est un bien grand mot. Alors bon, on peut s'arrêter aux chiffres, 22 000 hectares, plus deuxième forêt française.
J'en ai 500 de plus, moi.
Ah, c'est bien.
22 500. Oui, 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 j'ai recompté et j'en trouve 500 de plus. Ah
bah. 28 km de long, 16 de large. Bon, on pourrait dire que la forêt de Chaux, c'est une porte, hein, une porte sur un autre monde. Un monde du mystère, un monde. Hein, c'est une forêt où il y a une présence d'eau. La forêt de Chaux, bah, je pourrais peut-être la caractériser comme une belle jeune femme aussi. Hein.
Ça va beaucoup plaire à Hubert parce qu'en fait, vous n'êtes pas du tout rentré sur l'aspect production de la forêt, mais Alain nous la présente comme un personnage envoûtant.
Ben oui, on n'est pas loin de la Wivre dans la description.
Et voilà. Hein, non, ça, c'est... Oui.
Quand j'ai parlé de femme, j'aurais pu ajouter la Wivre, oui. Évidemment.
Mais... Puis dans les vapeurs, dans la brume, dans l'eau, tout ça. Dès le début, tout le discours qui est magnifique, là, moi je vois la Wivre partout. Là.
On peut se paumer là-dedans, dans cette forêt si on...
Ah oui, alors on dit toujours, avec un petit clin d'œil, qu'un forestier ne se perd jamais, il s'égare seulement. Mais c'est vrai qu'on tourne facilement en rond, surtout quand on n'a pas le soleil pour se repérer et se diriger.
Et le hêtre aussi qui fait partie de cette forêt, est-ce qu'on le voit commencer à remonter, comme on dit, avec le réchauffement climatique ou...
Alors le réchauffement climatique, le gros problème, c'est que si en effet les choses s'accélèrent, on va voir disparaître le hêtre. Le hêtre, il lui faut une certaine
humidité.
Ça
va de mi-ombre.
Voilà, et donc on risque de le voir disparaître, ce qui sera un gros danger pour la forêt de Chaux. Parce que là, on a des chênes déjà qui sont limites au niveau de la nappe phréatique, etc. Bon, ils accusent plein de problèmes. On va avoir certainement à choisir peut-être d'autres essences.
Avec le réchauffement de la planète, on peut imaginer c'est quoi, là, hein ?
Oui, on peut.
Le baobab, vous avez commencé des baobabs.
Des bagnans.
Oui, du palétuvier dans la cloche. La cloche est un petit ruisseau de la forêt.
Hein. Ah bah vous voyez, donc
un Thiéfen différent, qui est plein d'humour. Et c'est vrai que dès que vous installez donc l'humain dans la nature, eh ben, il a une parole différente et peut-être plus apaisée. On change de climat et on rejoint après Hubert-Félix Thiéfen.
You can see yourself. What you see is a reflection of somebody else. Now, if you want to find you, you gotta look underneath that shell. That's where you find true beauty, that of a precious pearl. You know you're beautiful, just the way you are. You are beautiful. You are beautiful, just the way you are. You are beautiful. You are beautiful, just the way you are. You are beautiful. You are beautiful, just the way you are.
Ayo Ayo, qui chantait donc Beautiful. C'est vrai que le beau, on en a besoin.
CO2, mon amour.
Ça sent la forêt. Toute la forêt. De cette petite roue.
Denis Chessou.
Humé.
Non, merci.
Vous ne voulez point humer la forêt.
Amusez-vous bien.
Sur France Inter.
Bah oui, parce que si ça vous met comme ça, dans cet état-là, la forêt, c'est pas la peine. Et là, c'est pas le cas avec Hubert-Félix Thiéfen. Et il faut quand même dire que France Inter, donc à l'époque, a cru en lui. C'était Foulquier et aussi José Arthur, hein, qui ont vraiment programmé donc cet homme. Et on peut dire qu'aujourd'hui, à 70 ans, bah la vie semble l'avoir emporté quand même sur la destruction avec ce Thiéfen, qui fut fortement marqué donc par cette forêt du Jura, parce que petit, il en rêvait, il se voyait en songe courir avec un renard. Alors on va poursuivre donc cette balade comme, j'allais presque dire, comme un bonbon à la sève de pin, à part que là c'est du chêne et c'est du hêtre. On respire à plein poumon, l'air est frais, on y va. Là on est sur des très belles couleurs quand même de fin d'après-midi. On a des petits carrés comme ça de
fleurs. Les jeunes feuilles, ça prend même des teintes d'automne à certains moments de la journée. Parce que elles sont toutes jeunes. Là-bas, elles sont encore un petit peu ocre même, ouais, au fond.
Mais une forêt, en fait, elle se débrouille toute seule. C'est-à-dire que c'est un excellent exemple de recyclage. Vous n'avez pas de déchets, hein, sauf si des gens en balancent. Mais sinon, il n'y a jamais de perte. Tout fonctionne en cycle fermé. Ouais.
Et c'est un peu là où j'en tiens compte, moi, c'est que quand je suis un peu paumé, quand je suis largué, quand je ne sais plus quelle décision prendre, je vais toujours vers la nature voir ce qu'elle m'indique, quoi. Elle se trompe rarement, quand même.
Ouais.
C'est peut-être ce qui me désespère un peu aujourd'hui, c'est que plus l'homme s'éloigne de la nature, plus on va devenir perdant. C'est là où je suis prêt à défendre l'écologie et la nature, quoi.
Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une source que certains analysent, comprennent, que vous ressentez. Vous vous sentez quand même relié à ce milieu. aussi vaste soit-il.
Oui, quand j'étudie certains comportements humains, je les compare à ce qui se passe réellement dans la nature et à ce qui serait normal. C'est peut-être absurde de regarder la nature telle qu'elle est, mais c'est encore plus absurde de regarder l'homme dans sa vie quotidienne, hein, avec tous ses gadgets, avec tous ses... C'est assez ridicule quelque part. Donc ça me permet aussi de m'appuyer, pas seulement sur la nature, hein, je m'appuie aussi sur...
Sur les gens qui vous entourent.
Sur les gens qui m'ont précédé, surtout, que ce soit dans l'Antiquité avec les auteurs grecs ou latins, ou que ce soit plus proche, et je m'en sers aussi comme pour avoir du recul. C'est vrai que la nature, c'est un bon repère, quoi.
En fait, le petit séminaire, ça a été aussi une sacrée ouverture, parce que je ne sais pas si c'est à ce moment-là que vous avez regardé La République de Platon, ou que vous aviez traduit en long, large et en travers.
On traduisait ça, oui, on traduisait ça, mais il nous faisait traduire ça en étant quatrième, alors ouais. On n'avait pas l'âge de pouvoir prendre du plaisir à ce genre d'idées. Et quand après j'ai analysé ce que j'avais appris à l'école, je me suis dit, mais putain, dans tout ce qu'on essayait de te montrer, il y a peut-être des choses intéressantes, donc j'ai essayé d'y retourner, quoi.
Alors, qui on pourrait rencontrer dans cette forêt? Est-ce qu'il y a des poètes? Rimbaud, qui a fait toute sa carrière en 2 ans et demi et qui était plus imprégné des forêts des Ardennes, lui, mais c'était quand même des forêts aussi.
C'est la lumière qui intéressait Rimbaud, c'est pas trop les ombres et les lumières comme on a ici, quoi.
Et vous, c'est ça quand même que vous aimez, c'est l'ombre et la lumière?
Ah oui, moi je suis passionné par ce côté ombre et lumière. Et c'est ce que j'essaie de faire moi aussi dans mes chansons, c'est-à-dire que je vais commencer à éclairer des choses, et tout d'un coup, je vais avoir une phrase, on va se dire, qu'est-ce qu'il veut dire, là? C'est-à-dire, j'essaie volontairement de créer un côté obscur, où les gens peuvent se retirer à un moment, pour se mettre dedans, quoi.
Alors, ça commence dès le matin, si vous travaillez pas, vous vous sentez pas bien, donc...
Depuis toujours, même mes premières chansons, quand j'étais à l'école et que j'écrivais des chansons, quand je finissais une chanson, j'avais toujours peur que ce soit la dernière, donc je me remettais toujours au boulot, et plutôt que de flipper en me disant qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir, je préfère me mettre au boulot tout de suite. Je parlais à la page blanche, comme tout le monde. Quand on reste longtemps sur une page blanche, il faut se dire qu'on est en train de travailler, que la moitié du travail se fait devant la page blanche. J'ai toujours dit que l'ennui était quelque chose de fondamental. On doit pouvoir avoir le temps de s'ennuyer. Pour pouvoir créer, il faut l'ennui, il faut cette patience devant les choses qui n'avancent pas.
La jambe de Rimbaud. De retour à Marseille, comme un affreux cargo chargé des troncs vermeils, des rives en immondices à travers les égouts. La beauté fut assise un soir sur ce genou. La beauté.
Il vous plaît ces arbres là qui sont de la concurrence en fait, parce qu'en fait ils attrapent la lumière, quoi. Il faut qu'ils soient un peu parfois en compétition l'un avec l'autre.
Ah oui, moi je suis un peu maniaque, alors là ce que je ferais, je couperais ceux qui empêchent les autres de pousser droit.
Ah oui, quand même, je ne veux voir qu'un seul tronc, mais droit. Vous êtes un peu maniaque effectivement.
Oui, je suis maniaque, mais ça, bon, ça se soigne aussi. Hein. Enfin, l'artiste il range le chaos, donc c'est normal qu'un artiste puisse être maniaque. Et d'ailleurs, au départ, je faisais un peu de tout. J'ai fait de la peinture, j'ai écrit des romans, j'ai écrit des pièces de théâtre, j'écrivais des nouvelles. J'ai un peu essayé tout ce qui était possible et je me suis mis à ce qui me salissait moins les mains, quoi. La peinture, à un moment, je supportais pas de me salir les doigts avec. D'ailleurs, j'ai jamais ouvert le truc de ma bagnole pour voir le moteur. Hein. D'ailleurs, j'ai remarqué, tous les poètes, tous les romanciers que j'aime, ce sont des oraux. C'est des gens qui crachent, qui vomissent. C'est Bukowski, c'est Céline, c'est Miller, c'est Rimbaud dans Une saison en enfer.
C'est Ferré.
Ferré aussi, mais Ferré est largement inspiré, tous ces gens. Hein. Il n'a jamais dit qu'il aimait Céline, mais ça se sent partout. Hein.
Ah, alors, on a un très joli concert, parce que c'est le moment... Alors, le soleil est encore haut. Mais où nos oiseaux donc vont quand même se dire.
Ouais, c'est le merle, hein, donc il couvre un petit peu.
Il couvre les autres.
Il couvre les autres, le merle.
Ouais, d'accord. On en a une petite dizaine quand même qui sont différents, ouais. Là. On a principalement du passereau. Et voilà, on n'a pas vu débouler le jeu des chênes, parce que pourtant
c'est beaucoup de chardonnerets, là. Ouais. Il y a beaucoup de pinsons et de chardonnerets. Je les confonds d'ailleurs, ils ont des champs un peu similaires.
Il joue juste, hein?
Ah oui, ça c'est sûr. Hein. Mais le merle chante bien, mais il chante trop fort. C'est une histoire de mix.
Oui.
Tout ce qui est mal mixé, j'aime pas.
Oh, on l'avait dit, il n'est pas maniaque. Bon, mais voilà.
Le maire, le bien mixé, ça pourrait être un peu rossignolesque.
C'est ça. Ben, écoutez, vous allez apprendre au maire là, à faire une balance correcte.
Ben, c'est l'ampli. Hein.
C'est l'ampli, c'est ça. Regardez quand même, là on est dans un creux, hein, dans un creux de verdure. Oui. Alors, c'est peut-être pas forcément un petit val qui mousse de rayons, mais c'est absolument charmant quand même.
Mais tout ça, le hameau, là, il était pris. C'est récent, récent, 1550. On peut dire que c'est récent, ouais, par rapport à l'histoire des autres villages, hein, qui viennent de l'Antiquité. C'était de la forêt, là, tout ça. Ils ont fait une ouverture, quoi. Ils ont fait pour créer ce hameau qui, au départ, était un lieu de reclus. D'accord. Alors les reclus, je pense, c'était des prisonniers qu'ils utilisaient pour les faire travailler dans la forêt.
Oui, c'était la main-d'œuvre. Bon, et puis on va laisser cette nature, Hubert. Et puis on va se dire au revoir là, dans ce coin du Jura, qui est très très beau. Vraiment très beau. Là, on est dans la partie plaine et puis...
On est juste à la rencontre, c'est la fin de la plaine de la Saône en fait. Mais là, à 10 km, on a déjà les contreforts du Jura. Quoi. Ça. Et puis les contreforts du Jura, on les monte en 10 minutes et on est sur le premier plateau. Et là, c'est complètement différent. Quoi.
Oui, c'est-à-dire qu'on est à 600-700 mètres d'altitude déjà, 800
Ah là, non, pas tant.
Non, je parlais
après,
du premier plateau.
Après, oui, après, on est dans la neige, hein,
c'est ça.
Souvent. Parce que là, bon, c'est le bout de la plaine.
C'est le territoire des chiens, des sangliers. Et un peu plus haut, c'est le territoire du lynx, déjà.
Oui, mais il y en a, je pense qu'il y a des lynx, là.
Ah, il y en a
déjà.
Ah,
ici, mais ils ont raison de ne pas tout dire, ce qu'ils remettent dans la forêt.
Non.
Moi, j'ai vu un ours l'autre jour devant chez moi. Puis quand il faisait froid, j'étais en ville. Là, il y avait tous les loups autour.
Oui.
Moi, j'ai rien dit. Hein.
Oh,
j'ai laissé faire parce que après, c'est plus.
De toute façon, le rhinocéros que vous avez gardé, parce que.
Là, c'est pour la corne. Hein.
C'était pour la corne.
Oui, parce qu'avec l'âge.
Je comprends. Il paraît. Enfin,
c'est bien d'avoir un rhino chez soi, quand même. Enfin, moi, je conseille.
Et puis le tigre aussi. Enfin, la poudre de tigre,
ouais,
il paraît, c'est pas mal.
Oui, mais ça, je l'attends, là.
Vous l'attendez?
Je l'ai commandé pour juillet.
Oh, bah, c'est bon. Ouais, il va arriver, ouais. Bah, bien sûr. Vous faites attention à l'eau, hein, j'ai vu dans les gestes écologiques que vous faites.
Pour l'eau, j'ai conscience, parce qu'ici, surtout dans le Jura, on manque d'eau. Nous, il n'y a qu'à voir la mousse par terre, elle est un peu sèche là.
C'est ça, ouais.
Donc, non, mais moi, je fais très attention. Par exemple, pour me brosser les dents, là, je coupe l'eau du robinet. Oui. Par contre, il y a un truc que j'arrive pas à faire, c'est que. J'ai appris à nager dans les torrents du Haut-Jura, oui. Donc j'aime nager dans les eaux fraîches. Donc je ne peux pas m'empêcher de changer l'eau de la piscine tous les jours, quoi, pour nager un peu.
Ben, c'est normal, ouais. C'est normal. Eh bien écoutez, merci beaucoup cher Hubert, et puis on se dit à bientôt.
Ok, salut Denis. Eh ben, écoute, c'est ouvert, hein, la forêt, là, il n'y a qu'à pousser le portail.
Oui. Ben, il était en forme, notre magnifique poète, donc, et avec plein d'humour. Merci Hubert Félix Sieffen, et aussi à sa forêt de chaux. Et puis quand même, à ce petit printemps, là, à l'entrée de l'hiver, eh ben, c'est ça, la magie de la radio.
C'est une génération qui fume plus, hein. Une génération de diététiciens, de juges, d'écolos. Font chier, cette génération.
CO2, mon amour, Denis Chesson.
Allez, les derniers mots de l'émission, Jacques Bonnaffé.
Est-ce dans le bouquet que la fleur est plus belle ou bien dans le pré où elle pousse quand nous nous sommes mouillés les pieds pour aller la chercher? Henri David Thoreau.
Merci à Arnaud Caillé, à Thomas Loété, Jérôme Boulet, Étienne Bertin, Thierry Dupin qui a choisi les disques. La semaine prochaine, ce seront des vœux pour l'environnement avec entre autres Jean-Claude Carrière. Le podcast, vous en avez l'habitude. Et puis le Twitter, tout simplement, Denis Chesson. Bon dimanche et joli passage de nouvel an avec tous les vœux qui vont bien.